Merci. Bonsoir à tous. Quand André m'a proposé d'intervenir ce soir, j'ai tout de suite répondu favorablement. Bah, ça fait longtemps d'ailleurs que j'accompagne le militantisme de la Ligue des droits de l'homme sur ces questions d'immigration. Mais en fait, je ne vais pas parler très très longtemps puisque là, le sujet est quand même très contemporain. Et même si j'ai essayé de développer une conception de l'histoire qui est celle de Marc Bloch, c'est-à-dire le lien entre le passé et le présent, il y a quand même donc une réalité historique qui est compliquée et qui n'a pas lieu d'être développée ici. Mais je pense malgré tout que la logique des frontières qui s'applique aujourd'hui beaucoup au niveau européen, en fait, s'ancre dans une réalité qui a été celle des États-nations. C'est-à-dire que on voit très bien, moi ce qui m'a frappé quand j'ai commencé à travailler sur l'immigration, c'est d'une part, dans le cas français, hein, mais je crois que ça vaut au-delà de la France, c'est que le mot fait irruption dans le vocabulaire au cours des années 1880. Hein. Auparavant, les Français étaient persuadés qu'ils étaient plutôt un pays d'émigration. Et dans les années 1880, c'est à ce moment-là d'ailleurs que s'épanouissent et s'installent, je dirais, les institutions républicaines. Et que donc, c'est là, je pense, une des contradictions majeures dans laquelle on vit encore aujourd'hui, que ce principe de citoyenneté est absolument décisif pour comprendre les nouvelles formes de discrimination qui se mettent en place au moment où la frontière devient une ligne intangible, donc séparant des nationaux et des étrangers. Donc, dans le cas français, au cours des années 1880, on se rend compte donc qu'en fait, la population française décroît, que dans l'intérêt national, on a besoin de recruter des travailleurs étrangers, mais on se rend compte en même temps, et les deux sont toujours liés, c'est ça qui est, je crois, toujours vrai aujourd'hui, il y a deux facettes dans le discours sur l'immigration, le discours d'État sur l'immigration, il y a le facette intégration et la facette protection des frontières. Et les deux émergent en France en même temps, au cours des années 80, à propos, en fait, du premier scandale, du premier problème qui va défrayer la chronique, c'est le problème, ce qui se pose par rapport aux Italiens. En 1881, vous avez des Italiens qui sifflent le drapeau tricolore à Marseille, au moment où les troupes rentrent de Tunisie, après avoir mis la main, écarté les Italiens pour prendre le contrôle de la Tunisie. Et donc, on a un groupe d'immigrants italiens qui sifflent le drapeau français. Et à partir de ce moment-là, s'enclenche toute une mécanique qui va aboutir à la loi de 1889 sur la nationalité française, sur laquelle on vit encore aujourd'hui. Et on voit très bien, au niveau parlementaire, dans la presse, etc., apparaître donc les deux facettes. On ne sait pas combien il y en a. Il y en a beaucoup plus qu'on nous dit. Les frontières sont poreuses. On n'a pas assez de policiers, on n'a pas de moyens d'identification, ce qui était le cas à l'époque, hein, je le rappelle quand même parce que c'est pas si vieux. Jusqu'en 1888, on ne savait pas exactement combien il y avait d'étrangers en France parce que il y avait des recensements quinquennaux, mais qui étaient très aléatoires, et les étrangers n'étaient enregistrés nulle part. Hein. C'est seulement à la suite de cette première polémique qu'on a commencé donc les procédures d'identification qui sont sans fin, hein, évidemment, parce qu'on peut toujours trouver un exemple qui échappe, etc. Donc, ce qui crée, voyez, une logique dans laquelle on est encore aujourd'hui et qui pousse toujours vers la droite, de la droite, de la droite, de la droite, les discours, parce que, couplé à une logique de faits divers, parce que c'est un point important aussi, l'émergence de la presse, on ancre dans l'opinion l'idée d'une menace et d'une impuissance de l'État par rapport au contrôle des flux. Et en même temps, donc, se couple à ce discours un autre discours qui est celui du danger intérieur. Hein, il y a le danger aux frontières, donc trouver des moyens de maîtriser la protection des frontières. Et puis le danger intérieur, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le communautarisme, qu'on appelait à l'époque les nations dans la nation. Hein, donc on dit que, c'est aussi par rapport aux Italiens, tandis que les Italiens sont très nombreux dans le sud-est de la France, et que l'Italie est alors alliée à l'Allemagne, à Autriche-Hongrie, dans le cas de la Triplice, que ces Italiens vont se soulever contre la France, et donc en cas de guerre, eh bien, la nation sera vaincue à cause de ces minorités intérieur. Et ça, ça va être, je pense, ça a été un discours particulièrement fort en France et qui reste encore dans tous les débats, y compris sur le voile, etc. C'est cette idée, donc, qui date de la Révolution, du danger pesant sur l'intégrité nationale. Et ça va donc ancrer un discours qui est en place, je pense, à la fin du XIXe siècle, qui, paradoxalement, au début, est porté plutôt par la gauche que par la droite, notamment chez les radicaux, et puis qui, au moment de l'affaire Dreyfus, va se reconstruire pour aboutir à une polarisation que j'ai appelée dans mes travaux à droite le pôle national sécuritaire et à gauche le pôle social humanitaire. Peut-être que ces catégories ne sont plus valables aujourd'hui parce que a-t-on encore une gauche qui est restée fidèle à ce discours, cet idéal social humanitaire? Ça, c'est une question qui se pose. Mais ce qu'on peut constater, c'est que à chaque fois que, je dirais, la gauche a été offensive, qu'elle a eu le vent en poupe et qu'elle a gagné les élections, que ce soit juste après l'affaire Dreyfus, que ce soit au moment du Front populaire ou même en 81 avec la victoire de Mitterrand, c'est quand ces deux fraction, je dirais, le mouvement ouvrier pendant longtemps, et puis le mouvement humaniste, construit notamment autour de la Ligue des droits de l'homme, ont réussi à s'allier et à déplacer un peu le centre de gravité des discours, qu'on a pu avoir une politique qui soit moins répressive. Mais dans la longue durée, malheureusement, on peut dire, cette logique qu'on voit aujourd'hui s'épanouir au niveau européen a été construite et elle a débouché donc jusqu'à la guerre de... Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais je dirais jusqu'à la guerre de 14, quand même, le libéralisme domine, c'est-à-dire que l'État n'a pas les moyens de fixer des directions aux flux migratoires. C'est seulement après, à partir de la guerre de 14, que se mettent en place donc les contrôles aux frontières, la logique des papiers d'identité, du contrat de travail, ce qu'on appellera la carte de séjour, hein, qui est appelée la carte d'identité pendant la Première Guerre mondiale. Après ce moment-là, l'État possède des moyens techniques, technologiques, visant à canaliser les flux et à les orienter en fonction des besoins du marché du travail. Donc, dans le cas français, je crois que c'est plus net en France que dans beaucoup d'autres pays, il y a une adéquation entre la situation du marché du travail, donc la situation économique, les discours sur l'immigration. Dans les périodes de bonne activité, où il y a un besoin de main-d'œuvre étrangère, la xénophobie a tendance à reculer, et dans les périodes de crise économique, eh bien aussitôt la haine de l'étranger, qui peut prendre différentes formes selon les régions, s'exacerbe. Et on voit apparaître dès la Première Guerre mondiale cette notion qu'on a vu ressurgir à l'époque où Nicolas Sarkozy était président de la République, d'immigration choisie, qui est encore un des thèmes aujourd'hui important, hein, au niveau européen, c'est-à-dire proposer un accueil, mais d'immigrants qui sont considérés comme utiles au développement économique. Bon, on a eu le discours sur les informaticiens, etc. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui se met en place, je dirais, pendant ou juste après la Première Guerre mondiale, mais dans un discours, dans un vocabulaire qui n'était pas le même qu'aujourd'hui, puisque c'était à l'époque le vocabulaire des indésirables. C'est-à-dire, il y a un désirable et indésirable. Évidemment, cette notion d'indésirable, elle a été aujourd'hui refoulée de la mémoire collective, parce qu'elle a abouti aux pires horreurs, hein, puisque c'est à partir de ce discours sur les indésirables qu'ont été mis en place les camps, d'abord par la Troisième République, la fin de la Troisième République, c'est-à-dire pour des réfugiés qui avaient été privés de leur nationalité, notamment les Juifs allemands. Hitler leur avait retiré la nationalité allemande et que la police française voulait expulser. On ne peut pas expulser un individu qui n'a pas d'état d'accueil. Et donc, ça a été l'origine de la mise en place de ces camps qui, après, bon, ont dégénéré sous Vichy et qui ont abouti donc aux persécutions, à la contribution que l'État français a apportée à la persécution des Juifs, mais aussi de communistes, de résistants, etc. Donc, il y a une longue durée, je dirais, de la répression, de l'enfermement, de la fermeture des frontières, mais je dirais aussi qu'il y a une longue durée de la résistance. Et j'insiste toujours là-dessus, y compris par des discours, par rapport à des discours peut-être extrémistes qui auraient tendance à ne voir que le côté répressif, xénophobe ou raciste. Il y a toujours eu. C'est aussi une des conséquences de la construction de l'État-nation. C'est pas pour rien que la Ligue des droits de l'homme naît en 1898, c'est-à-dire au moment même où les institutions de l'État national s'épanouissent. Et c'est dans cette logique, dans cet affrontement que nous vivons toujours aujourd'hui entre deux discours. Un discours, je dirais malheureusement, qui est facilement majoritaire sur les discours nationalistes de fermeture, de regard suspicieux à l'égard de l'étranger, et puis un discours humaniste qui vise à essayer de desserrer l'étau, mais qui aujourd'hui a, je dirais, de plus en plus de mal à se faire entendre. Voilà, bon, je vais m'arrêter là, si vous voulez bien, vous pourrez répondre à vos questions par la suite, mais c'était juste pour faire une petite perspective historique.
Alors, merci. En effet, merci à Gérard Noiriel pour cette très bonne base historique qui va nous permettre de tirer des parallèles avec cette situation actuelle que nous allons maintenant saisir avec l'aide de Sarah Prestiani en Méditerranée et en particulier dans le sud de l'Italie.
Merci. La situation dans l'espace méditerranéen, je vais essayer de vous donner un cadre d'abord plus large donc, de cette région méditerranéenne, région qui pourrait se caractériser par un lieu de réel échange entre les deux rives et qui, finalement, pour ce qui concerne la migration, se caractérise plutôt pour un champ de bataille dont l'ennemi, ce sont les migrants. Dans cet espace, nous voyons d'un côté, dans la rive sud, des pays soit d'origine, soit des transits des migrants qui sont de plus en plus l'objet de cette politique dite d'externalisation de l'Union européenne. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est plus joliment nommé dans les documents de l'Union européenne comme une dimension externe, mais dans les faits, c'est concrètement la volonté des institutions européennes de sous-traiter les contrôles des frontières, la question de l'asile, l'enfermement aux pays voisins avant que les migrants ne rejoignent pas les territoires européens. L'objectif, c'est de les mettre à l'écart, loin des yeux des Occidentaux, mais surtout loin de notre territoire, afin qu'ils ne soient pas à la charge de l'Union européenne de traiter leurs demandes d'asile. C'est ainsi qu'on demande au Maroc de bloquer les migrants avant qu'ils rejoignent les enclaves de Ceuta et Melilla, qu'on signe des accords avec la Turquie, qu'on signe des accords tragiques avec la Libye de Gaddafi, au nom donc de cette collaboration d'un côté, pour ce qui concerne l'Italie et la Libye, au refoulement, mais aussi à les enfermer avant qu'ils ne rejoignent pas l'espace européen. Et puis nous voyons cette méditerranéenne, donc cette frontière qui se caractérise de plus en plus par des murs, mais aussi par des politiques de contrôle. Et quand je dis guerre, c'est parce que les bateaux militaires qui se trouvent dans cet espace nous rappellent trop souvent cette dimension de la guerre plutôt qu'une dimension d'aide, de sauvetage et d'ouverture. Et puis des pays de la rive nord, des pays donc où les migrants ceux qui arrivent, parce que beaucoup n'arrivent pas, soit parce que les mesures des contrôles sont trop fortes, soit parce que malheureusement ils périssent en mer dans cette tentative de traversée. Ces pays se caractérisent tout d'abord pour une dimension très faible, voire complètement absent de l'accueil. Je pense à une Espagne qui a très peu de centres d'accueil, en Grèce qui n'a pas du tout, en Italie où les migrants réfugiés statutaires vivent dans des squats dans des situations insalubres, mais une condition de non-accueil qui, en quelque façon, fait les jeux de l'Union européenne, qui, à travers les règlements Dublin 3, qui oblige donc les migrants à demander l'asile dans ses premières pays où il touche, où il met les pieds, donc dans ces premiers pays des frontières, fait de quelque façon un moyen de destruction de l'asile même. Obliger un migrant à demander l'asile en Grèce, où il n'obtiendra jamais les statuts de réfugié, revient à détruire en quelque façon les droits d'asile, un principe basilaire de cette institution européenne. Mais revenons rapidement sur ces lieux de passage. Je commencerai par la frontière gréco-turque parce que je pense que c'est un exemple assez important et très actuel sur ce qui se passe. J'imagine tout le monde sait la tragédie qui touche aujourd'hui la Syrie, le fait que la plupart des réfugiés syriens sont en train d'être stockés en quelque façon dans les pays voisins, la Jordanie, le Liban et aussi la Turquie. Et en quelque façon, les jeux de l'Union européenne, c'est que ces réfugiés reste bien en Turquie et ne rejoint pas les territoires européens. Par quels moyens ? Tout d'abord, la signature d'un accord de réadmission qui a été fait entre l'Union européenne et la Turquie, qui permet à l'Union européenne de renvoyer en Turquie tout migrant qui serait transité par ces pays et qui serait ensuite arrivé en Grèce. Bien que, même avant de cet accord, la Grèce n'hésitait pas à refouler de façon complètement illégale les migrants qui se trouvaient sur son territoire vers la Grèce. Mais aussi, le fait que la Turquie, finalement, certes, a signé la Convention de Genève, mais octroie les statuts de réfugiés qu'aux ressortissants des États européens. Donc, à tous les autres ressortissants, ne donne pas un statut réfugié donné par les gouvernements turcs, mais une formule des statuts qui est donnée par l'HCR et qui donc est une procédure très, très, très longue qui va ramener qu'à une réinstallation par la suite. Et puis, voilà, un des autres instruments clés, c'est la construction des murs. A été cité tout à l'heure les murs qui est construit dans la région d'Evros, mais les murs ne sont pas que des murs réels, comme cette barrière qui était construite des faits dans une des seules, les 12 kilomètres où c'était facile de passer à pied, donc où les migrants n'étaient pas obligés à se noyer dans la rivière Evros, donc ils passaient par là. Donc maintenant, cette barrière bloque de quelque façon les points plus faciles d'accès, mais aussi la barrière est constituée par la mer, par ces bateaux des fortunes qui chavirent de plus en plus souvent en essayant de rejoindre la mer Égée. Et puis, cette mesure des blocages, des guerres, des murs, pas forcément physiques, mais aussi réels, sont aussi les lieux d'enfermement où sont enfermés les migrants dès qu'ils rejoignent les territoires grecs, en durée de plus en plus longue des rétentions dans les centres de rétention grecs, mais aussi, comme je disais tout à l'heure, un système d'accueil complètement absent et le fait qu'en Grèce, les statuts des réfugiés est pratiquement jamais accordé aux demandeurs d'asile. C'est la raison principale pour laquelle, quand on parle avec les migrants qu'on trouve en Grèce, souvent la parole c'est « on est en Grèce, on n'est pas en Europe ». Et donc les tentatives de rejoindre l'Europe c'était fait dans les passés par les portes des Patras et Gouménitsa. Là aussi une autre mur, une autre barrière. La pratique de l'Italie c'est pratiquement des réadmissions systématiques. On voit des demandeurs d'asile, des mineurs qui sont réadmis, donc renvoyés dans les mêmes bateaux où sont arrivés. Donc les migrants se mettent comme à Calais entre les roues des camions qui montent dans les ferries. Une fois qu'ils sont arrivés dans les ports italiens, Ancona, Venezia, Bari et Brindisi, normalement, comme procédure pratiquement régulière et quotidienne, dès qu'ils sont détectés, ils sont renvoyés directement. Donc ça, c'est une pratique pratiquement quotidienne qui est faite, qui d'ailleurs était bien, heureusement, d'être condamnée par la Cour de l'Union européenne. Malheureusement, quelques jours après la condamnation contre l'Italie et la Grèce par cette pratique illégale des réadmissions, l'Italie a reproduit à nouveau une réadmission des Ancona vers Patras. Donc comme si les décisions de la Cour européenne n'arrivaient pas forcément aux décisions des pays, des États membres. Donc cela explique aussi dans cette frontière gréco-turque pourquoi les passages des Syriens par cette frontière est pratiquement impossible et pourquoi la plupart des Syriens, c'est qu'ils arrivent à quitter les pays limitrophes où se trouvent la plupart, essayent la route de la Libye. Et ça, c'est la deuxième porte de l'Union européenne. Libye, pays qui s'est caractérisé comme lieu de transit vers l'Union européenne, via le canal de Sicile depuis de nombreuses années, pays où la question de l'immigration était toujours gérée par Gheddafi, qui s'amusait au degré des accords signés avec l'Italie notamment, mais aussi des négociations avec l'Union européenne, à fermer et ouvrir les robinets des passages, parce que finalement c'est lui qui gérait les contrôles même. En août 2008, l'Italie signe un accord, les traités d'amitié et collaboration, avec les colonels Gheddafi, 2009-2010, après un moyen, pendant beaucoup d'années, entre 2005-2010, c'était 30 000 la moyenne des migrants qui arrivaient depuis la Libye vers l'Italie. 2009-2010, on arrive à quelques centaines de migrants. Cela nous fait comprendre comment, finalement, les jeux de l'externalisation ont des effets tragiques. Ne veut pas dire que les migrants ne partaient pas, mais cela veut dire qu'ils étaient stockés, bloqués dans des lieux d'enfermement. 2011, révolte en Libye, une année de chaos général ou en fuite générale des migrants, en utilisation des migrants par Gheddafi qui chargeait des bateaux pour essayer de faire des pressions sur les États européens. Et ensuite, nouveau gouvernement libyen. Et c'est là qu'avec une mission avec Migrop et l'FIDH, je me rends en Libye. Et les constats tragiques, c'est que c'était tragique sous Gheddafi et c'est encore pire avec le nouveau gouvernement. Je pense que les paroles ne servent pas beaucoup. Je vais vous faire voir des images des lieux d'enfermement qui se trouvent en Libye. Ça, c'est les centres de Ganfouda au port de Benghazi. Il y a des centaines, voire 2000, 3000 migrants enfermés sans aucune accès au service médical. Beaucoup des migrants sont tabassés, beaucoup des migrants sont morts à l'intérieur de ces centres. Les nouveaux gouvernements libyens font de la migration un business, donc les arrêtent une fois qu'ils essayent de franchir la frontière du Soudan, du Niger vers la Libye, à Koufra et Seba, les arrêtent, les kidnappent en échange d'argent, et puis à fur et à mesure, c'est tout un chaîne des business qui est mise en place où on arrête pour avoir de l'argent pour qu'elle soit libérée. Donc beaucoup de femmes, celles-ci des femmes qui avaient été arrêtées en mer. C'était l'époque où l'Union européenne négociait avec les nouveaux gouvernements. Le 3 avril 2012, un nouveau accord entre l'Italie et la Libye est signé. Donc, ils étaient arrêtés par les gardes-côtes libyens qui voulaient se démontrer amis de l'Union européenne, tabassés, renvoyés dans un centre de rétention, des conditions inhumaines et dégradantes, aucun accès à la santé. Beaucoup des mineurs enfermés dedans, mineurs, femmes, enfants, tout mélangé. Si une personne est malade, il reste. Et puis, s'il meurt, c'est pas les gardes libyens qui vont les appeler. Celle-là, c'est la cellule de ceux qui sont considérés des fous. Alors souvent la folie est née par la traversée dans les déserts et donc peu importe, donc cela ça veut dire qu'il y a des personnes qui restent des mois, des années enfermées dans ces lieux. Comme vous voyez dans les images, ça c'est des gens maliens, sont dedans ces structures avec la chaleur des 40-50 degrés de la Libye du Sud, beaucoup des mineurs et voilà, ils restent là pendant des mois. Ils sont beaucoup touchés par la gale, qui d'ailleurs on retrouve souvent aussi dans les pays européens ensuite quand ils arrivent. Ça, c'est des signes des violences qu'ils avaient subies parce qu'ils avaient essayé de demander de sortir à l'air. Ce qui est normalement, les problèmes, c'est qu'ils n'ont pas l'air. Donc, c'est vraiment étouffant les conditions à l'intérieur. L'autre caractéristique, c'est qu'on retrouve beaucoup d'Égyptiens aussi dans les centres d'enfermement. Cela nous fait comprendre que finalement, l'importance d'être étrangère, c'est toujours une business. On enferme tout le monde et puis, en échange d'argent, on libère ou sinon, les gens pourrissent à l'intérieur du centre. Bien sûr enfermés et détenus avec les mêmes habits ou sans chaussures, comment ils sont arrivés ou comment ils ont été arrêtés. Beaucoup des migrants sont victimes des violences aussi entre les guérillas. Ça, c'est un jeune qui était blessé à Koufra et qui était ensuite enfermé sans aucun soin pour sa blessure. Ces jeunes, ils venaient juste de faire la traversée dans les déserts, complètement traumatisés parce qu'ils avaient vu la moitié de leur groupe mourir en route et ils étaient quand même enfermés sans aucune, bien sûr, soin psychologique du traumatisme qui venait, qui leur était affligé. Là aussi, beaucoup des mineurs. Ça, c'était un vieux centre. Alors, les centres de rétention, on les ouvre partout. Ça, c'était une espèce de vieux usine militaire qui était reconstruite ainsi comme centre de rétention. Voilà, ça c'est toujours des cages. Ces centres étaient construits par les Italiens avec des fonds italiens et qui ensuite étaient réutilisés par les nouveaux gouvernements comme lieu d'enfermement. Là aussi, une autre jeune femme qui avait été tabassée. La pratique aussi dénoncée par l'OIM des travails forcés, on prend des migrants, on les fait sortir, on les fait travailler et c'est les directeurs du centre de rétention qui prend l'agent du travail puis on les renferme à nouveau, pratique très récurrente. Ça c'est la seule fois qu'ils sortaient parce qu'on était là, mais c'est juste pour vous faire comprendre la dimension et les nombres des personnes qui sont détenues dans une petite partie du centre, qui est bien sûr au milieu de nulle part, dans les montagnes Ganfuda. Ces jeunes femmes, donc voilà, vous voyez bien, donc ça c'est les katibas, donc les centres sont gérés par des milices, donc ne sont pas sous les contrôles du ministère de l'Intérieur. C'est des milices qui sortent complètement du contrôle, qui se disent donc des milices révolutionnaires, qui gèrent des centres donc de façon complètement arbitraire. Voilà, ça c'est ce qui concerne les centres de rétention en Libye. Pourquoi donc voilà, cette tentative continue. Pardon, je vais ouvrir l'autre. Cette tentative continue des départs pour fuir à ces situations, bien sûr. Donc la justification de ces 150 000 arrivées cette année se justifie par une situation de chaos total en Libye, mais aussi par une situation dans les pays d'origine, donc principalement des Syriens, des Érythréens qui fuient la dictature, des Éthiopiens, des Somaliens. Mais donc je disais ces 3000 morts se sont produits principalement au large des côtes libyennes. La motivation principale c'est que les bateaux qui partent aujourd'hui de Libye sont des bateaux encore plus de fortune de ce qui était dans les passés, des zodiacs chinois qui ils ont une durée de vie des 24 heures plus ou moins, chargés avec 100-120 personnes. Donc effectivement les rôles des Maranostrom étaient fondamentaux parce que étant des bateaux des grosses dimensions militaires pouvaient effectivement patrouiller les eaux internationales très proches des côtes libyennes. Ils ont effectivement pu sauver beaucoup de personnes. C'est là un reportage que j'ai effectué à l'intérieur du bateau des Mare Nostrum. Donc voilà, la question des Mare Nostrum est simple. Je pense qu'il y a eu un côté très positif d'échange des politiques des sauvetages de quelque façon. Et puis il y a aussi un côté très noir de cette Mare Nostrum, de cette opération, c'est la procédure d'identification à bord. À bord des bateaux des Mare Nostrum, il y a une vingtaine de task force du ministère de l'Intérieur qui font de la prise d'empreinte directement dans les bateaux. Donc pas forcés parce qu'ils ont peur d'un révolte dans les bateaux, mais bon, quand même, ceux qui ne savent pas trop qu'est-ce que ça veut dire donner des empreintes en mer ou à l'arrivée, ils sont fichés à vie, malheureusement à cause du Dublin 3, et aussi les volets lutte à l'immigration clandestine qui se caractérisent pour l'opération des Mare Nostrum dans ce que la lutte aux passeurs. Donc, cette espèce d'hypocrisie européenne qui veut trouver la cause de la question de l'immigration dans les passeurs. Bien sûr, s'il n'y avait pas des frontières fermées, il n'y aurait pas des passeurs. Donc, c'est beaucoup plus facile de dire que les méchants, c'est les passeurs. Et donc, au nom de cela, dans 150 000 migrants sauvés, il y a eu une identification et accusation des 500 migrants comme étant des passeurs. Donc, cette task force du ministère de l'Intérieur, beaucoup d'énergie, parce qu'à la fin, chaque bateau qui arrive, on doit trouver 2-3 passeurs. Voilà, très difficile en quelques heures de l'identifier, mais l'important, c'est arriver à pouvoir dire dans tous les journaux italiens, on a arrêté les passeurs. Souvent, c'est ceux qui conduisent. En sachant, en voyant la condition en Libye, c'est clairement évident que ces passeurs, c'est simplement des personnes qui ont payé la moitié du prix pour conduire et donc pour prendre la charge de cette accusation qui peut leur coûter des années de prison en Italie. Donc ça c'est donc les bateaux, un des bateaux c'est la San Giusto, les bateaux mères des Mare Nostrum, changé chaque 3 mois ça changeait. Donc ça c'est un groupe, c'était des 300 Syriens, donc ça c'est les meilleurs bateaux qu'on peut trouver en mer en Méditerranée aujourd'hui. Ça c'est quand on s'approchait, à l'intérieur il y a 300 personnes, parce que beaucoup ils sont au-dessus. Ils avaient fait quelques jours de traversée. Donc là, on s'approche et on se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup, beaucoup, beaucoup de mineurs, parce que les Syriens, ils partent presque tous en famille. Donc finalement, il y avait une soixantaine de mineurs, dont quelqu'un de quelques mois. Voilà, à l'arrivée, on leur donne des gilets de sauvetage. Ça, c'est les premiers soins. Les protocoles prévoient une tenue anti-Ebola pour l'arrivée. Donc effectivement, je pense que l'impression pour ces gens qui arrivent en Europe avec des espèces d'extraterrestres, c'est-à-dire habillés en noir, en blanc, c'est quand même assez effrayant. Donc la première chose, c'est on leur prend la température. Et puis voilà, il y a quand même à l'intérieur du bateau, qui est quand même très grand, tout un système d'assistance médicale. Et voilà, ça c'est pour moi une photo assez symbolique de ce qui est le fichage qui est fait directement du bateau, qui poursuivra les migrants dans tout leur parcours migratoire, des numéros. Ça c'est le numéro 1 sur 17. Ils ont un numéro au poignet, ils ont un numéro à main, ils ont un numéro au cou. Et donc ça c'est vraiment les premières identifications qu'ils auraient fait, qui les suivra un peu dans leur parcours. Ça, c'est un autre bateau qui est arrivé. C'était des jeunes subsahariens qui ont été tous fichés. Et voilà, ça, c'est l'intérieur du bateau. C'est là qu'ils attendent quelques jours avant d'être débarqués en Sicile, par terre, avec voilà, du carton au sol. Et là, c'est la sortie en Italie. Donc voilà, avec cette étrange pratique de leur mettre des masques. Bien que voilà, apparemment les protocoles Ebola étaient faits, mais voilà, ils arrivent ainsi en Italie, donc avec tous des masques. Et donc là, ils sont amenés dans des centres HAB, donc des centres de première tri, où on identifie ceux qui sont les demandeurs d'asile et ceux qui sont des potentiels migrants clandestins qui sont enfermés dans des centres de rétention. La pratique, c'est que les Syriens et les Érythréens qui ne veulent pas du tout rester en Italie parce qu'ils savent que les niveaux d'accueil est très bas, ils s'enfuient et on les retrouve notamment beaucoup à Calais. Les autres, ils sont accueillis dans des centres d'accueil en Italie. Des centres d'accueil qui sont caractéristiques par un élément très compliqué parce qu'ils sont souvent situés dans les périphéries des villes. Donc imaginez des jeunes qui viennent débarquer avec tout ce que c'est, les traumatismes de ces voyages, être dans un petit village souvent bien à une dizaine de kilomètres du premier petit village, sans qu'il y ait des bus qui peuvent les amener. Voilà, ça c'est un peu les concepts bizarres qui est donné au concept d'intégration des demandeurs d'asile fait par l'Italie. Mais de quelque façon, l'Italie forcément a plutôt envie qu'ils s'en aillent et surtout qu'ils ne soient jamais à contact avec la population italienne. Donc cette espèce d'exclusion, des mises à l'écart des indésirables aussi dans la procédure d'accueil. Je vais terminer avec une petite réflexion. Tous ces murs qu'on a vus, à quoi servent ? Est-ce que ces murs servent à bloquer l'immigration ? Je ne crois pas. 54 000 migrants démontrent que finalement ces murs ne servent pas à cela. J'ai pas eu beaucoup le temps, mais voilà, il y a une autre tragique mur, c'est celui de Ceuta Melilla. Et je vous donne ces exemples pour vous ouvrir une réflexion. À quoi servent ces murs? La réponse n'est pas forcément à fermer la migration. La réponse est forcément à donner une image du criminel qu'il faut éloigner. Mais aussi, il faut en quelque façon, la seule conséquence de ces murs, c'est que finalement la route de la migration devient de plus en plus longue, de plus en plus coûteuse en vie humaine et aussi un prix à payer, mais aussi un coût énorme, que c'est les traumatismes psychologiques qui accompagneraient ces migrants tout au long du parcours. Imaginez arriver en avion en Europe, imaginez prendre un bateau, la mer, les déserts, et ensuite se retrouver un an dans un village perdu de la Sicile en attendant un papier qui peut-être ils n'auront jamais, et puis se retrouver à Calais. Et l'exemple, l'histoire nous l'apprend. Je termine en vous citant un peu l'histoire très rapidement de ce qui s'est passé à Ceuta Melilla. Octobre 2005, 20 migrants morts au pied des enclaves de Ceuta Melilla en essayant de franchir les murs. 2006, on élève les murs des 3 mètres. Les passages deviennent pratiquement impossibles. Les migrants descendent, partent des Sénégal, des Mauritanie et ils arrivent 50 000 en 2007 au large des côtes des Canaries. Frontex arrive, l'Agence européenne des contrôles des frontières, se place au large de la Mauritanie du Sénégal en créant un premier indice des délits d'immigration clandestine. L'article 13 dit qu'on peut quitter son territoire. Frontex décide que non, on ne peut pas quitter parce qu'il y a des bateaux de Frontex qui bloquent les départs. Donc, chute totale des départs des Sénégal des Mauritanie. On retourne à Ceuta et Melilla. On a vu tous les images cette année des migrants qui s'accrochent à ces barrières donc des 6 mètres qui étaient construites en 2006 en essayant de les franchir. Donc, finalement, ces murs, la construction de ces murs n'a pas arrêté la migration. Simplement, maintenant, les migrants arrivent à Ceuta et Melilla, blessés encore plus qu'ils étaient avant, mais ils n'arrêtent pas d'arriver parce que les causes du départ sont là. Donc, finalement, cette Europe s'est barricade derrière ces murs en créant des effets désastreux aussi pour la population qui, finalement, arrivera sur son territoire au lieu de l'accueillir.
Merci à Sarah Prestiani pour avoir montré qu'évidemment aux murs physiques s'ajoutent les murs de la répression et du rejet, avec tout ce que ça représente comme traumatisme et comme douleur. Et elle nous a montré aussi avec la Libye un exemple, l'exemple même de l'externalisation de la frontière méridionale de l'Europe, avec les conséquences humanitaires que vous avez vues. Et c'est justement ce qui est en train de se passer entre l'Angleterre et la France elle-même à Calais. Et à ce propos, je laisse la parole justement à Philippe Vanesson.
Oui, on pourrait dire qu'une fois qu'on a réussi à franchir ces murs qui sont aux frontières extérieures et d'entrée, eh bien, on est toujours dehors finalement, parce qu'il y a à la fois des frontières matérielles qui persistent à l'intérieur de l'espace européen et puis des frontières immatérielles. Les gens qu'on voit arriver à Calais, qui en ce moment ont souvent passé par la Méditerranée, la Libye, la Méditerranée, l'Italie, on choisit de ne pas s'arrêter en France, tout simplement parce que quelqu'un qui veut demander l'asile en France, la première barrière qu'il rencontre, c'est la barrière du temps qu'il lui faudra pour attendre son premier rendez-vous en préfecture pour se signaler comme demandeur d'asile et donner ses doigts, comme on dit assez joliment, donner ses empreintes digitales pour voir si c'est bien la France qui est le pays responsable ou si, de sa demande d'asile ou si on ne peut pas en trouver un autre. Et puis ensuite, la deuxième barrière, ça va être de rester dans la rue en attendant qu'on vous fasse peut-être, à un moment donné de la procédure, une proposition d'hébergement. Donc c'est des gens qui ont compris et intégré, en fait, en choisissant de continuer leur route vers le Royaume-Uni, qu'en France, en fait, les demandeurs d'asile n'étaient pas particulièrement bienvenus et les réfugiés n'étaient pas particulièrement bienvenus. C'est pas particulier à la France, effectivement, on voit aussi à Calais des gens qui ont des titres de séjour italiens, au titre de l'asile, au titre du travail, et qui disent voilà, j'ai un titre de séjour, j'ai habité pendant des années dans un squat, j'ai fait quelques petits boulots au noir, il y a un moment j'ai envie d'avoir une vraie vie, quoi. Enfin, quelque part, ils disent voilà, j'ai beau avoir les papiers, j'étais toujours dehors, quelque part. Et je cherche un pays où je vais enfin pouvoir être dedans, avoir une vie normale, construire un avenir, construire une famille, etc. C'est effectivement ce que les gens disent en Grèce, en fait. Voilà, je suis entré en Grèce, je pensais que j'entrais en Europe. Je me suis retrouvé à la rue, j'ai mangé dans les poubelles, les gens me jettent des pierres. Pas tous, mais ça arrive. Et je vais quitter la Grèce et puis je vais arriver en Europe. Sauf que cette Europe, effectivement, elle n'existe pas. Et elle a tout un tas de mécanismes pour maintenir dehors des gens. Des gens qui, en plus, pour beaucoup, en tout cas ceux qu'on rencontre à Calais, ont effectivement le profil demandeur d'asile, réfugié, éventuellement protection subsidiaire, donc accès à un titre de séjour, et qu'on maintient aussi en dehors de ça. Enfin, Dublin, c'est aussi, voilà, je suis entré par les Balkans, je suis arrivé en Bulgarie, j'ai bien été obligé de faire une demande d'asile, sauf que procédure longue, éventuellement enfermement en rétention, assez peu de chances d'obtenir le statut de réfugié au final, et de toute façon, perspective d'intégration dans le pays le plus pauvre de l'Union européenne, à peu près nulle. Donc à un moment donné, je continue ma route, mais si je demande l'asile ailleurs, eh bien, on va me dire le pays responsable, monsieur, c'est la Bulgarie, donc on va vous renvoyer là-bas, monsieur ou madame. Souvent, monsieur, et l'une des choses que je crains après avoir vu un peu la situation en Grèce, c'est que c'est un peu l'impression que les familles, elles restent sur le chemin. Il y en a très peu à Calais. Et elles ne restent pas dans les pays qui sont les plus accueillants, quoi. Parce que c'est dur de crapahuter de passage de frontière en passage de frontière. Et que les obstacles matériels, effectivement, ils existent encore. Alors, à Calais, on y faisait allusion tout à l'heure. C'est le principal point de passage, en fait, en termes de trafic poids lourd et en termes de trafic passager entre le continent et la Grande-Bretagne. C'est le tunnel plus ce port, à peu près 20 millions de passagers par an. Il y en a quelques-uns qui sont bloqués par la frontière. Avant, il y avait une gare maritime dans le port. On passait la douane, on montait dans le train. Si on avait envie d'aller faire un tour en ville, on allait faire un tour en ville. Et puis, le port, maintenant, il est complètement entouré par des grilles. On sort à l'autre bout, par l'autoroute. Je ne pense pas que la ville y gagne, d'ailleurs. J'habitais pendant longtemps sur une petite place qui était en arc de cercle, ouverte sur le port, où pratiquement tous les rez-de-chaussée étaient des bars et des restaurants à une époque, et où il y en a un ou deux qui ouvrent, qui ferment, qui ouvrent, qui ferment, qui ouvrent, qui ferment, parce qu'effectivement, la clientèle qui était à la fois le personnel du port et puis les passagers, les voyageurs, elle prend l'autoroute. Et ça résume un peu aussi la situation de la ville qui se retrouve coupée du port, qui est sa principale activité économique. Et quelque part, la relégation, elle joue pour les migrants, mais elle joue aussi pour la ville à un moment donné. Du point de vue de ces barrières matérielles. Donc on a un port entouré de grilles, et puis il est arrivé comme parfois en Grèce, comme à Ceuta et Melilla, que les gens à un moment donné ont été suffisamment nombreux. Sont des gens qui sont souvent remontés de Libye très rapidement par l'Italie, sans prendre le temps de bosser aux blagues dans le sud de l'Italie pour se refaire un peu d'argent pour la suite de la route. Donc ils arrivent, ils n'ont pas de fric, ils n'ont pas de quoi payer des passeurs. Et quand ils ont été suffisamment nombreux, on y va en groupe, y compris en force entrée du port. On entre sur les parkings, on essaie de monter sur les camions, etc. Ça a été le grand affolement de cet été, très médiatisé notamment au Royaume-Uni, et qui a déclenché la chute du chèque de 15 millions d'euros sur 3 ans pour la sécurisation du port, sachant que ce qu'on commence à voir, c'est que les Britanniques sont quand même prudents, c'est-à-dire ils font bosser des entreprises britanniques, donc l'argent revient en fait. Mais donc on va avoir des grilles qui vont s'élever, on a commencé à mettre des barbelés au-dessus, et il va y avoir 3 à 4 kilomètres de grilles le long de l'autoroute. Ce qu'on a beaucoup vu dans les médias, c'est qu'il va y avoir un centre de jour, ça c'est chouette, c'est humanitaire, qui va être au pied de l'autoroute. Et puis ce que disent les pouvoirs publics, c'est qu'ils ne verraient pas d'un mauvais œil que les bidonvilles dans lesquelles vivent les exilés se mettent autour du centre de jour. Donc on aura une autoroute avec des grandes grilles des deux côtés, le bidonville au pied, et puis c'est l'entrée du continent ou l'entrée du Royaume-Uni, selon le sens dans lequel on va. En tout cas, c'est un peu comme une entrée de ville. D'habitude, on se dit qu'il faut les soigner pour donner une bonne image. Là, on va avoir la grille bidonville au pied. Voilà un peu le genre de choses qu'on fabrique. Mais on fabrique aussi un bidonville loin du centre. C'est-à-dire la politique que c'est... depuis un an, c'est d'expulser les squats, les campements qui sont près du centre, et de repousser les gens à la périphérie. Du coup, ce qui les amène à s'installer beaucoup plus près des lieux de passage, et ce qui participe aussi à la pression qu'ils ont pu mettre en partant en grand groupe à l'assaut des camions, comme disent les médias. Donc une politique qui est assez contradictoire, qui est pleine de contradictions, mais qui est clairement de repousser les gens de la ville. Alors une politique avec un versant municipal, c'est-à-dire une maire UMP qui est clairement pour nettoyer sa ville. Elle ne le dit pas tout à fait comme ça, mais c'est pas loin. Et en tout cas, voilà, on a des exilés qui jouent au foot sur des terrains municipaux depuis 2 ans parce que quelqu'un a trouvé que c'était une idée intéressante à la fois pour que les gens de différentes communautés se rencontrent, mais pour qu'ils rencontrent aussi les Calaisiens qui tapent le ballon au même endroit pendant le week-end. Et puis un beau jour, on a des adjoints au maire qui débarquent, la police, et puis les semaines suivantes, l'huissier qui passe pour constater l'occupation illégale des terrains. Et puis comme il n'y a pas d'issue légale, ben les matchs continuent, quoi. On est têtu, mais clairement, voilà, ce qui est signifié, c'est qu'on ne veut pas de migrants sur les terrains municipaux. À la médiathèque, accès Internet, c'est bien, c'est indispensable pour maintenir le lien avec la famille, en fait. Et ben bonjour, on change le règlement. Alors c'est pas anti-migrant, bien sûr, c'est que simplement il faut maintenant une carte qui est gratuite. Et pour avoir la carte, il faut fournir une pièce d'identité, un justificatif de domicile. Donc exit de la médiathèque, en tout cas de l'espace multimédia. Et puis voilà, c'est aussi des opérations de police dans les centres commerciaux, en centre-ville, etc. C'est un festival interculturel qui est interdit, bien sûr, pour risque de trouble à l'ordre public, pas parce qu'on n'aime pas les festivals interculturels, mais on a une politique assez systématique comme ça de ségrégation dans l'espace urbain où on dissuade finalement l'accès à un certain nombre de lieux publics, de lieux importants pour la vie collective. Et puis c'est visiblement aussi la politique de l'État, puisque généralement, quand il y a opération de police, c'est la police nationale qui intervient. Donc c'est pas simplement le maire qui décide à un moment donné, c'est aussi une politique de destruction des squats, de harcèlement, de contrôle aux faciès, qui est particulièrement marquée dans le centre-ville et qui est dissuasive. Alors effectivement, on peut se poser la question quelle ville on construit quand on cible une population et qu'on essaye de la repousser à la périphérie, et qu'est-ce que ça fait dans l'histoire des gens aussi, cette violence qui, quand même, on a beau essayer de ne pas la voir, de tourner la tête, mais quand même... C'est un peu tous les jours et c'est un peu partout. Et ça fait 20 ans que les gens vivent avec cette situation-là, finalement, dans leur horizon, sur leurs médias aussi. Enfin, c'est quelque chose de présent. Et souvent, les parents de jeunes adultes ou grands ados disent « Voilà, mon fils ou ma fille, depuis qu'il est né, il a toujours eu ça, depuis que... » Voilà, ça fait partie de son environnement, quoi. La police qui court après les migrants qui dorment à la rue, on les chasse d'un lieu à un autre, etc. Enfin, c'est quelque chose. Mais en même temps, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a quand même... Calais, c'est aussi... même maintenant, c'est un peu une ville de chômeurs, mais au départ, c'était une ville industrielle, et il y a quand même des traditions de solidarité qui tiennent. Et qui vont à l'inverse, quoi. J'imagine dans certaines villes où il y aurait moins ces traditions de solidarité, la brutalité que pourrait être celle de l'intervention de la police, par exemple. Là, quoi qu'il arrive, on remarque qu'il y a des choses qui naissent et qui renaissent, et qu'il y a tout un tas d'attitudes individuelles, d'engagements associatifs. Les engagements associatifs humanitaires dans un cadre comme ça, c'est voilà, préparer tous les jours des centaines de repas pour des gens. C'est un investissement qui, en termes de humain, voilà, c'est énorme. Et pendant des années. C'est un exemple, mais... Et après, il y a tout un tissu de gens, effectivement, qui ouvrent leurs portes, qui entrouvrent leurs portes, qui donnent des vêtements, qui... Voilà. Dans la rue, parfois, une voiture s'arrête, on donne des vêtements à un groupe qui est là, puis on repart. Donc il y a un peu toute cette manière de vivre ensemble. Alors vivre ensemble aussi, l'été, même à Calais, il fait à peu près beau, les gens se croisent dans les parcs, il y a des couples qui se forment, voilà. Enfin, il y a aussi un vivre ensemble qui existe, paradoxalement, dans cette situation de violence, et qui fait qu'autant il y a une volonté des pouvoirs publics qui est clairement d'établir une séparation des populations, autant il y a du racisme qui est réelle et qui s'exprime de manière de plus en plus visible dans la population calaisienne, autant il y a aussi le fait qu'on se croise, qu'on se côtoie, que parfois on se parle, que parfois on échange, que parfois il y a de la solidarité et des choses comme ça. Je voulais terminer en disant qu'il y a quelque chose qui devient permanent et qui s'inscrit aussi dans le paysage, avec une difficulté à s'inscrire dans la conscience des gens qui s'engagent sur le terrain par contre, qui est que les exilés, du fait qu'ils restent aussi plus longtemps, qu'ils sont bloqués là, etc., ont beaucoup plus tendance à s'organiser. On a quand même eu, au mois de mai, une vague d'expulsion de campement que le préfet a annoncé à l'avance. Ça, c'est une manière de convoquer les médias, et puis on a envie de montrer qu'on est ferme, donc on l'annonce à l'avance. Du coup, il y a eu une concertation entre les habitants des différents campements qui ont choisi un lieu à occuper, qu'ils ont occupé ensemble et qui ont démarré une dynamique avec des assemblées générales tous les jours, cahiers de revendications, manifs, etc., qui s'est diluée parce qu'il y a le quotidien, il y a le fait d'essayer de passer toutes les nuits, le fait que le degré d'adhésion de chacun à cette forme militante était éventuellement variable, puis il y a tous les nouveaux qui arrivaient au fur et à mesure sur ce lieu-là. Mais on a quand même eu ça. On a eu un squat ouvert par des militants et où assez rapidement un comité d'habitants s'est constitué. Et on a assez régulièrement comme ça des manifestations qui sont organisées par les exilés. Là, ça fait 20 jours que des Syriens font un rassemblement quotidien, par exemple. Ils demandent, en fait, avec un peu de candeur, mais de bon sens aussi, quelque part, ils disent, voilà, nous, on parle plutôt anglais, on connaît des gens au Royaume-Uni, c'est beaucoup plus jouable pour nous d'aller demander l'asile là-bas. Donc on demande à passer légalement plutôt que de courir après les camions, quoi. Alors, ils ont essayé de voir la police britannique dans le port, mais la police française ne les a pas laissés passer. Ils ont été au consulat britannique à Boulogne, ils ont trouvé portes et volets fermés. Le consulat a rouvert dès que la manif s'est terminée. Ils ont trouvé, bien sûr, la police devant la porte française, devant la porte du consulat britannique. Donc, leurs interactions avec les autorités britanniques sont plutôt faibles. Et du coup, ils sont sur un rythme, voilà, on se rassemble l'après-midi, on essaye de passer la nuit. Ils passent plutôt bien d'ailleurs en ce moment, mais ils ont choisi quand même de poser ce débat là. Par contre, autant il y a un an on a eu déjà des Syriens qui ont occupé l'accès piéton du port, donc ils étaient quand même symboliquement dans le port, et puis quelque chose qui est monté médiatiquement, etc., autant là il y a finalement très très peu de soutien et très très peu d'écho à ce qu'ils font, et on trouve plus facilement des gens, en fait, il y a des gens qui s'organisent pour leur apporter le thé le matin dans leur bivouac, ils dorment sous des auvents en centre-ville pour la plupart, au moment où ils sont, ben voilà, des SDF, mais il y a très peu de gens qui vont les voir l'après-midi quand ils sont debout avec leur banderole en train de manifester. Et je pense que c'est aussi une difficulté, finalement, de changer le regard quand eux changent de rôle et quittent le rôle des personnes en difficulté qu'on va aider. Et là-dessus, voilà, il y a plein de gens qui savent faire pour dire « on est là, voilà, on revendique et on aimerait que vous soyez avec nous ». Et là, peut-être qu'il y a encore une de ces frontières invisibles, en fait, qui empêche à un moment donné d'être dedans, au moment où on recrée de la démocratie, on revendique dans l'espace public, liberté de manifester, une liberté constitutionnelle. Et ben là, les gens ne sont pas au rendez-vous, ils sont au rendez-vous seulement quand on est un pauvre et un marginal.
Bon, merci pour avoir très bien décrit d'une part les différentes formes assumées par le soutien des bénévoles, avec cette espèce de retenue dès que débat où la situation prend une couleur davantage politique, hein, si j'ai bien compris, et puis pour avoir montré aussi ces possibilités d'auto-organisation des différents groupes de migrants qui tentent le passage vers l'Angleterre. Bien, le débat... Gérard Noriel est malheureusement parti, je voulais encore quand même lui poser une question, mais je la poserai peut-être tout à l'heure. Désormais, à vous la parole. Evelyne.
Une question, parce que dans la tout à l'heure, nous a dit la montée à la fin du 19e siècle pour la France et peut-être pour l'Europe aussi des nationalistes. Expliquant toutes les politiques de réserve à l'égard de l'immigration et en même temps de besoin à l'égard de l'immigration. Alors, à vous entendre, surtout à Antoine Sarra, on a l'impression que le niveau de décision est européen et pas tellement national. Le niveau de, par rapport à l'immigration. C'est-à-dire qu'en fait, là, on a l'impression que les. Il y a des directives européennes qui renvoient vers les pays où les types arrivent les migrants qui commencent à circuler. Et puis il y a une deuxième impression qu'on a, c'est que quand les migrants viennent à Calais, c'est pas pour rester. Et que l'Angleterre refuse l'accueil. Donc moi j'ai vraiment cette impression qu'il y a un verrou européen. Évidemment Frontex l'explique bien. Murs qui sont construits sont des murs de protection de l'Europe, ce n'est pas des murs de protection des pays. Enfin, ce qui est installé sont des murs de protection de l'immigration européen contre l'immigration. Hein? Et alors, est-ce que l'action ne doit pas être au niveau européen, je veux dire, pour faire changer à la fois le regard vers l'immigration et l'accueil?
Sous la dimension européenne, moi je pense qu'il y a tout un chemin qui a été fait. La première fois qu'on parle d'une politique d'harmonisation de l'Union européenne à niveau des États membres sur la question de l'immigration, c'était 1999, c'était le Conseil des tempérés, où on commence à mettre les bases de cette politique d'harmonisation qui voit trois piliers sous lesquels s'appuyer, c'était l'intégration des étrangers, celle des demandeurs d'asile et la lutte à l'immigration clandestine. Voilà. Donc dans cette... Je pense qu'il y a tout un chemin qui a été fait en 15 ans, un chemin qui est plutôt négatif parce que finalement, de ces trois piliers, on voit qu'à niveau du budget, mais aussi à niveau des moyens mis en place et des volontés politiques, il y a un troisième pilier, celui de la lutte à l'immigration clandestine, qui est beaucoup plus développé par rapport aux autres deux. Donc ça, c'est un constat réel. De mon côté, je pense qu'il y a certes une empreinte européenne fondamentale et il y a une nécessité importante d'agir à niveau européen. Après, il y a une espèce de... des cache-cache parfois entre les États membres et l'Union européenne sur certains diatribes parce que du coup les États membres veulent garder des intérêts pas forcément politiques mais aussi économiques. Je vous donne un exemple. Du coup on a beaucoup annoncé les passages des Mare Nostrum à Triton. Du coup j'ai essayé de comprendre comment ça s'est passé ces passages parce que j'avais vu très bien qu'il y avait un diatribe ouvert entre les ministères de l'Intérieur italien que je rappelle dans un gouvernement dit des gauches et des droites, parce qu'il y a une espèce d'accord populaire qui est fait, qui disait Mare Nostrum va arrêter, point barre, et c'est Frontex, donc voilà, qui en quelque façon est un représentant des institutions européennes qui va répondre. Et la réponse de Frontex, c'était toujours de dire absolument pas, Frontex, Triton n'est pas la substitution des Mare Nostrum, et c'est à l'Italie de garder toujours une rôle centrale dans les opérations de sauvetage. Nous, on va s'arrêter aux 30 000 des côtes. Résultat de ce qu'on voit maintenant, c'est un chaos et une opacité très, très dangereuse. On rappelle que les naufrages du 11 octobre où sont morts des centaines de Syriens, tout de suite après celui du 3 octobre, c'était justement une mauvaise coordination entre les autorités italiennes et les autorités maltaises. Donc, concrètement, qu'est-ce qui se passe maintenant? Finalement, on annonce la fermeture des Mare Nostrum et l'ouverture des Triton. Finalement, on se rend compte que Mare Nostrum continue son opération encore deux mois. donc en espèce moitié en cachette. Donc l'Italie assure sous la pression de l'Union européenne, mais veut imposer l'effet que ne soit pas la Guardia di Finanza, donc la brigade financière, qui historiquement est l'organe, les corps policiers en charge des Frontex, mais va être la marine militaire. Donc, en quelque façon, c'est une espèce de jeu de pression. On garde ça, mais à la fois, vous prenez la gestion de la marine militaire, donc assez bizarrement. Tout cela expliqué, bien sûr, par des lobbies économiques, dans le sens que la marine veut sa partie du gâteau économique dans la gestion des Tritons. Donc voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, je pense qu'il y a une empreinte européenne très évidente, mais il y a aussi une espèce de jeu de pression ridicule qui est fait par certains États membres, qui gagnent sur certains volets, qui ne gagnent pas sur des autres, et qui finalement, je me rends compte que quand ils jouent au rebais, et quand je pense au système d'accueil italien, grec ou espagnol, n'est pas pointé du doigt, mais qui finalement, quand on veut faire une régularisation, est pointé du doigt, donc les autres États membres les obligent à pas le faire. Donc je pense qu'effectivement, il y a un empreinte très européen et dans un cadre aussi des marges de manœuvre minima des États membres, mais finalement, ce qui relève dans ce cadre des dimensions, entre la dimension européenne et la dimension nationale, c'est une espèce de confusion qui, dans certains éléments très concrets, comme par exemple sur les sauvetages en mer, peut provoquer d'un côté vraiment des situations tragiques. Et puis, il y a aussi une autre dimension qui est très importante dans cette cadre européen entre dimension européenne et nationale, c'est l'opacité. L'opacité, certes, n'est fait pas comprendre, mais l'opacité surtout permet en quelque façon de ne pas avoir les responsables. Et c'est là, pour des organisations comme Migrop, mais comme d'autant d'autres, et j'invite d'ailleurs les autres organisations à en faire des recours juridiques pour des violations des droits fondamentaux, devient de plus en plus encore difficile de reconnaître les responsables. Par exemple, sous Triton, c'est Frontex qui affichait, mais à la fois, apparemment, c'est l'Italie qui coordonne, donc la responsabilité doit tomber sous l'Italie, qui du coup donne la coordination à la marine militaire, qui du coup est presque intouchable dans tout ce que c'est des recours internationaux, ou en tout cas marche sur des binaires différents, parce que sur des voies différentes, parce que c'est la marine militaire. Donc voilà, je pense que sous cette dimension aussi ambiguë entre la dimension nationale et européenne, il y a un jeu aussi des déresponsabilisations, des dilutions des responsabilités très graves dans ce qui est du coup pour la défense réelle en cas de violation des droits fondamentaux.
Je passe maintenant le micro et je vous prie d'annoncer votre nom au micro avant l'intervention, en quelque sorte de signer votre intervention à mesure où le débat est enregistré.
Emmanuel Théret. D'abord, je voulais faire une remarque. D'après les statistiques du ministère de l'Intérieur portant sur les sans-papiers interpellés et placés en rétention, environ 80% d'entre eux sont entrés régulièrement sur le territoire français et sont simplement restés au-delà de la durée de leur visa. Par conséquent, même si les frontières étaient fermées de façon absolument étanche, on n'aurait résolu que 20% du problème. Et il resterait 80% du problème à résoudre. Bon, ça, c'est une première remarque. La deuxième... J'étais tout à fait sensible à ce que disait Sarah sur le fait que, quelle que soit la hauteur des murs, le nombre des bateaux, l'efficience des radars, etc., etc., les gens finissent quand même par passer. Et ça, c'est une constatation que toutes les statistiques permettent de faire. Je veux dire, il n'y a pas de baisse des entrées irrégulières sur le territoire européen, bien loin de là. Les gens finissent quand même par passer. Et je me demandais si c'était la même chose à Calais. Combien de temps faut-il ? Est-ce qu'on peut évaluer la durée de séjour à Calais avant que on finisse quand même par passer en Angleterre ? Car chacun sait bien qu'il y a une espèce de turnover à Calais. Alors le délai, il est plus ou moins grand, mais les gens finissent quand même aussi par passer.
Autant où il y avait 400 ou 500 personnes à Calais... Je m'étais amusé à faire un petit calcul en disant que si ces 4 à 500 personnes mettent 2 à 3 mois pour passer, bon, on a donc un turnover sur 4 à 6 fois 500 personnes en entrée irrégulière au Royaume-Uni, c'est-à-dire c'est peanuts, c'est-à-dire qu'on a la partie visible d'un phénomène plus large. et que probablement qu'il y a beaucoup plus de gens qui entrent par des containers, par des gens qui les font passer dans des bateaux de plaisance ou autres, des faux passeports, etc. C'est-à-dire ce qu'on voit effectivement parce que les gens sont bloqués, visibles, parce qu'il y a des campements, des bidonvilles, des squats, etc., et qu'il y a la répression qui est visible aussi. C'est ceux qui sont pas assez de fric pour être sur des plans plus assurés, plus confortables, en fait. Donc, c'est absolument pas révélateur, à mon avis, ou alors plus personne n'entre au Royaume-Uni clandestinement, concrètement, enfin, quelques milliers de personnes par an, voilà. Ou alors les gens entrent autrement, et du coup, voilà. Effectivement, mais alors après, en termes de délai, effectivement, il faut quelques mois en général, avec. Ben, en payant plus cher, quand même, on passe plus vite. Ce qui veut dire qu'il y a des choses qui se monnayent du côté des personnes chargées de contrôler, parce que normalement, les contrôles sont les mêmes, quel que soit le tarif. Ou parfois, on passe en groupe de 20, ce qui, vu la nature des contrôles, que ce soit le gaz carbonique, les bad bunkers ou même le scanner, je veux dire, une personne dans un camion, regardant l'image de scanner au milieu de la nuit, on est un peu endormi, on ne le voit pas, mais 20, ça fait quand même du volume. Mais ça fait un paquet d'argent et visiblement, voilà. C'est... Alors après, et puis, les gens, effectivement, ils trouvent d'autres stratégies, c'est-à-dire on passe pas seulement à Calais, éventuellement on va se faire emmener en voiture. C'est d'ailleurs tous les aspects du passage dont on parle, qu'on médiatise peu finalement, parce que le conducteur, en général, c'est quelqu'un du cru, voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut conduire légalement une voiture sur le territoire européen. Donc on va en voiture à Dieppe, etc. On essaye une nuit, on revient. Il y a peu d'opportunités, il n'y a pas beaucoup de ferries, mais ça vaut le coup d'une expédition parce qu'il y a moins de surveillance aussi. On remonte sur les parkings de plus en plus. Et là, l'une des choses qu'on voit, c'est qu'on se focalise sur le fait qu'il y a environ 3000 personnes à Calais. Mais en collectant des infos de la presse locale, on voit qu'il y a un campement du côté d'Abbeville. C'est-à-dire les chauffeurs, maintenant, ont pour consigne de ne pas s'arrêter sur les 100 derniers kilomètres. Donc si on veut vraiment avoir une chance de choper les camions, il faut aller beaucoup plus en amont. Donc il y a des gens aussi qui sont dans le Dunkerquois et qui vont en voiture sur les parkings en Belgique pour choper les camions là-bas. Et puis je parlais de Dieppe, mais aussi Ouistreham, et puis très probablement Le Havre-Saint-Malo. Apparemment, maintenant, il y a des gens de manière continue, c'est-à-dire c'est plus des gens qui viennent en voiture, qui essayent la nuit, qui repartent, mais il y a une présence permanente parce que c'est bouché à Calais, qu'il y a beaucoup de monde et qu'on essaye de passer. Voilà. Peu d'infos sur la situation en Belgique. En partie parce que l'information, du coup, c'est dans la partie néerlandophone, donc on a moins accès aux informations, sauf quand elles passent aussi dans les nouvelles francophones, quoi. Mais d'une part, il y a les liaisons ferry d'Ostende, qui était un peu la voie de passage traditionnelle, sont arrêtées. Donc les passages se font à Zeebrugge, qui est le port le plus sécurisé, du coup. Et puis, on peut voir quand même dans les informations des opérations de police très similaires à celles qu'on voit en France, sur les parkings, des contrôles dans les trains, etc., enfin, sur les voies d'accès au littoral. Et pour revenir sur la question d'avant, là, on est sur des accords bilatéraux ou trilatéraux entre pays membres de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on a toute une série d'accords de niveaux divers entre la France et le Royaume-Uni qui... souvent consacre des choses qui existent déjà, mais qui inscrivent finalement dans des accords communs les politiques qui sont menées. On n'a pas les textes concernant la Belgique, mais on voit bien que ça marche pareil, et ça marche très probablement pareil avec les Pays-Bas. Sachant que pour des raisons de fréquence de voyage, de longueur du voyage, etc., il y a... Effectivement, Calais, c'est 90% du trafic et c'est le point le plus proche et le voyage en bateau le plus court.
Bonsoir, j'ai deux questions. D'abord pour madame, Jana Mojadik, moi je suis journaliste de l'Europe du Sud-Est et très intéressée pour la position et le statut des ressortissants des Balkans en Italie, parce qu'il y a ce fameux Salone, ce camp des Roms près de Rome, et que la situation des ressortissants de l'Europe du Sud-Est n'est pas très brillante. Je veux dire, ce n'est pas seulement les Syriens et les Érythréens, c'est aussi des Européens qui n'arrivent pas réaliser leur séjour, même s'ils ont pendant 10 ans ou 20 ans ou 30 ans en Europe de l'Est et de l'Ouest. Et pour Calais, je voudrais bien savoir, y a-t-il des organisations humanitaires organisées, ça veut dire comme les Caritas, comme les organisations qui se trouvent chez nous au Balkan, je veux dire, ne pas aller plus loin. Y a-t-il des vous parlez tout le temps des gens qui font, des familles, des personnes qui s'arrêtent. Y a-t-il une organisation à qui je peux m'adresser pour faire un article ? Je veux dire, nous n'irons pas plus loin. Merci.
Non, sur la question des ressortissants des Balkans, je n'ai pas forcément parlé parce que forcément on ne passe pas par cette voie de la Méditerranée, mais ce qui est clair, ça répond un peu à la même logique des ghettisations dont je parlais sur les systèmes d'accueil italiens, que ce soit dans un centre d'accueil, que ce soit dans un camp Rom, effectivement, il y a toujours cette politique un peu de mise à l'écart généralisée et des stigmatisations. C'est assez, et d'ailleurs, ça a commencé avec la population, notamment la population Rom en Italie, avec notamment des attaques subies par les partis xénophobes de la Ligue Nord qui faisaient des descentes dans les camions avec du feu en faisant, et puis voilà, des déclarations aberrantes. La dernière c'était il y a quelques jours qui disait voilà, il faut vraiment l'extermination, donc vraiment avec des terminologies très fortes. Et c'est assez effrayant comme on voit maintenant cette même violence qui passe et qui est réversée aussi contre les demandeurs d'asile et réfugiés qui viennent d'arriver cette année. C'est un exemple, il y a eu des affrontements très violents à Tol Sapienza dans la banlieue de Rome, où on était attaqué à un centre pour mineurs qui a dû se barricader à l'intérieur parce que la population voulait les tabasser en disant « vous n'êtes pas chez vous ». Donc voilà, effectivement, on voit un déplacement de cette haine qui a caractérisé et qui caractérise toujours les relations avec la population d'origine des Balkans, avec aussi cette population des réfugiés qui transite par la Méditerranée. Donc malheureusement, ce n'est pas, c'est un élargissement de la haine qui touche aussi cette nouvelle population.
Oui. Peut-être sur les gens des Balkans, à Calais, il y a par exemple des Albanais. Depuis quelques années, probablement un effet secondaire de la crise en Grèce qui font que les gens partent plus loin, mais aussi de la politique d'expulsion du Royaume-Uni, c'est-à-dire des gens qui ont passé quelques années, qui ont été expulsés, qui reviennent. Il y aurait des Serbes actuellement. Il y a une attitude particulière, alors ça reste à petite échelle, vu le nombre de passagers qui franchissent la frontière, mais des autorités britanniques vis-à-vis des ressortissants des pays de l'Est, c'est-à-dire c'est pas rare de voir des Roumains, des Estoniens, des Polonais en carafe. C'est-à-dire, normalement, ils devraient pouvoir rentrer et puis ils peuvent pas. Et effectivement, plutôt des gens d'Europe de l'Est, et ce qui correspond aussi, enfin, ce qui fait écho au débat actuel au Royaume-Uni, il y a trop de migrants intra-européens, donc voilà. Donc on en voit le reflet à la frontière concrètement, à petite échelle, mais quand même. Sinon, à Calais, il y a d'une part des associations locales, Salam, le Réveil Voyageur, l'Auberge d'immigrants. Il y a eu pendant longtemps la Belle Étoile qui a été la première association qui s'est spécifiquement créée autour de la solidarité avec les exilés. Et puis il y a des associations nationales comme le Secours catholique, donc Caritas France, et puis Médecins du Monde qui interviennent sur place. Après, l'idée, en particulier de Médecins du Monde, c'est de dire en principe il devrait y avoir des réponses des pouvoirs publics par rapport à la situation humanitaire des personnes. C'est-à-dire qu'il existe des dispositifs d'accès aux soins, il faut les activer. Il existe une obligation d'hébergement d'urgence inconditionnel des personnes sans domicile. Enfin, il y a des choses qui doivent être mises en œuvre. Il y a eu en 2012 une circulaire interministérielle décrivant une méthodologie pour accompagner le démembrement des bidonvilles et trouver des solutions, et notamment de relogement aux personnes, de relogement et d'accompagnement. Donc si l'État a appliqué ses propres règles, en tout cas certaines d'entre elles, on vivrait plutôt mieux. Et il y a le souci quand même des associations de ne pas faire le boulot des pouvoirs publics là où ils devraient mettre en œuvre des réponses. Donc on est toujours sur cette tension de, à la fois de répondre à l'urgence, mais en même temps de renvoyer vers des réponses qui devraient être celles des pouvoirs publics, quoi.
Bonsoir, Abdesalam Klesh. Tu l'as presque abordé à la fin, Philippe, et tu l'as un peu redit maintenant. Moi, ce que j'aimerais savoir, si on peut revenir un peu à la... C'est dommage que Noiriel est parti, mais il a souligné dans son intervention cet aspect, ces deux pôles constants, moi, depuis un siècle, à savoir un pôle, je dirais, identitaire ou plutôt de recouvrement, puis un pôle social humanitaire important, et dans ton intervention à la fin tu as rappelé un peu que il y a de la solidarité qui se manifeste. Est-ce qu'aujourd'hui ce pôle important de solidarité, d'expression de la solidarité dans la phase actuelle que nous vivons, est-ce que selon toi, et peut-être Sarah peut aussi répondre au niveau de l'Europe, est-ce que c'est un pôle aujourd'hui qui est plutôt en peau de chagrin dans notre phase aujourd'hui, ou plutôt c'est un pôle qui a du mal à résister dans la phase actuelle, donc bref, comment peut-on mesurer un peu ce pôle de résistance, parce qu'il y a de la résistance aujourd'hui, dans cette phase actuelle, par rapport à l'immigration.
C'est toujours difficile de mesurer ce genre de choses. C'est clair que du côté des réactions de rejet et de xénophobie, en tout cas à Calais, mais malheureusement c'est pas spécifique à Calais, mais en tout cas à Calais ça s'inscrit vraiment dans... Là, sur un an, on a eu un saut qualitatif important d'affirmation des idées d'extrême droite, y compris d'extrême droite, plus à l'extrême droite que le Front National. Avec des propos sur Internet, il faut les mettre sur un bateau, couler le bateau, il faut ouvrir les chambres à gaz, il faut foutre le feu dans les squats, sortons les fusils, organisons-nous. Et puis des passages à l'acte, du coup, parce que... Il y a des gens qui ont la prudence de se contenter de le dire sur Internet sous pseudonyme, et puis il y a des gens, à un moment donné, qui le font. Donc il y a ça, effectivement, qui est très visible. Il y a une fatigue réelle des associations humanitaires traditionnelles, notamment qui se retrouvent confrontées à... Alors, 3000 personnes à la frontière entre deux pays de 65 millions d'habitants, c'est rien. Ceci dit, pour des associations qui doivent collecter des dons, préparer des repas, distribuer, etc., et qui se retrouvent devoir essayer au début de l'hiver de trouver des couvertures pour tout le monde. Il y a un moment où les gens... Il y a une réelle fatigue des associations traditionnelles, mais du coup, le fait que l'extrême droite, et notamment un groupe Sauvons Calais, qui est plus ou moins lié aux identitaires, à d'autres néo-nazis et autres, soit apparu dans le paysage, en face, il y a des gens qui se sont dit « Non, là, ça va trop loin ». Et du coup, on a vu arriver, et assez d'abord sur Internet, mais assez rapidement sur le terrain aussi, des gens qui nous disaient, voilà, moi je suis calaisien, je me rendais compte qu'il se passait quelque chose, je m'en étais pas particulier, mais là ça va trop loin. Mais qui du coup s'engagent souvent individuellement, par petits groupes, en réseau, etc., qui donnent un coup de main là où ils peuvent, mais qui ont relancé aussi collectivement le débat public que les associations traditionnelles n'assumaient plus ou très peu. On a aussi des modes d'engagement plus radicaux qui ont été liés à l'engagement de nos borders à Calais, au départ beaucoup avec des militants britanniques et d'ailleurs en Europe, mais de plus en plus avec des militants français, calaisiens ou pas. Au départ sur un travail d'observer la police et parfois de la gêner dans son action. Maintenant beaucoup plus sur l'ouverture de squats, mais aussi suivre ce qui se passe au centre de rétention, continuer à mettre la politique d'expulsion en lumière, etc. Donc du coup il y a à la fois la fatigue de certains acteurs traditionnels, mais aussi une espèce de capacité de résilience avec le fait que ça se durcisse en face, finalement ça suscite aussi de l'engagement à un moment donné. Donc je serais pas forcément pessimiste. Par contre, et puis ça fait quand même des années que ça dure, quoi. Donc si Calais était une espèce de laboratoire où on se demande jusqu'où on peut aller en plein air à persécuter une population, parce que c'est ça qui se passe. Finalement, on peut la persécuter effectivement, mais en même temps, quand on voit des actions répressives à Notre-Dame-des-Landes ou ailleurs, on se rend compte que la police peut taper beaucoup plus fort, qu'elle peut tuer au besoin, et que là, elle le fait. Elle le fait, mais bon, en se cachant un peu et pas autant qu'elle le pourrait dans d'autres cadres, quoi. Donc on se dit qu'il y a quand même dans l'opinion publique une espèce de résistance qui fait qu'il ne faut pas aller. Voilà, il y a des limites qui restent et qu'il y a des solidarités qui restent quand même, quoi. Je pense que dans une ville où la population serait beaucoup plus indifférente et hostile, ça taperait plus fort, quoi.
Oui, je pense qu'il y a des points intéressants d'émergence et résistance. Selon moi, une très intéressante, c'est la multiplication des recours juridiques qui sont mis à place au niveau international. Je pense à la grande victoire du cas Hirsi, qui, de quelque façon, c'était une condamnation contre l'Italie pour des pratiques de refoulement en Libye, qui, de quelque façon, effectivement, a bloqué cette pratique. Qui était substitué par d'autres, mais pas si violent que prendre des migrants à notre mer et les renvoyer en Libye, les faire enfermer. Cette récourte que j'ai citée tout à l'heure, donc aller sur le terrain, recueillir des récits, monter un recours juridique, et cela a été fait tout par des militants. Je pense à d'autres, la systématisation de l'appui des militants pour des recours contre les renvois Dublin, qui ont mis en évidence aussi le fait que des tribunaux déclarent l'Italie un pays pas au niveau, à niveau de l'accueil. Donc je pense que ça aussi, c'est des actions qui ont été faites par des associations. Ou sinon, voilà, un exemple pour toutes, à niveau italien, qui est quand même dans une situation un peu particulière de sa nuance de résistance, a été le fait que spontanément, à Milan, se sont rendus compte que des dizaines de Syriens se rendaient à la gare pour partir vers Strasbourg et par la suite vers l'Allemagne et fuir donc l'Italie. Il y a eu tout un système qui a été mis en place, des supports d'aide à la gare de Milan, alimentaire, et finalement sensibilisation de la mairie, qui a ouvert deux centres d'accueil où les migrants s'assurent que quelques jours le temps de prendre les trains. Donc voilà, il y a aussi cette forme qui s'est mise en place de façon naturelle avec un déplacement de la route migratoire, une ouverture d'une nouvelle chose, et qui s'est mise en place de façon assez spontanée, qui ne sont pas forcément autant mises en avant aussi, parce que voilà, c'est quand même compliqué dire qu'on est des migrants et qui s'en vont, et surtout aussi de dire que finalement les policiers italiens ferment les yeux devant ces départs parce que c'est dans leur intérêt qui s'en vont. Mais bon, en étant sur le terrain, tu te rends compte qu'ils sont là et qu'ils sont très importants et qui finalement en plus s'adaptent aussi au changement. Ils vont plus vite de ce qui leur écho, l'écho qu'ils n'ont fait. Mais voilà, ils sont là et sont assez intéressants.
Oui, j'avais peut-être encore juste une remarque à ajouter. Ça aurait été sous la forme d'une question posée à Gérard Noiriel, parce que je repars aussi de ce mouvement de balancier, en quelque sorte, qu'il a indiqué entre une politique sécuritaire d'un côté et puis une politique ou une perspective davantage humanitaire, peut-être davantage marquée à droite d'un côté, davantage marquée à gauche de l'autre. Désormais, on peut d'ailleurs en douter. Mais quoi qu'il en soit, il avait l'air de mettre en relation la politique sécuritaire avec une situation d'instabilité économique, voire même de crise économique. Et ce serait évidemment le cas dans la situation actuelle. Or là, il faut que je me réclame de ma double appartenance, en quelque sorte. L'exemple de la Suisse contredit cette relation dans la mesure où la Suisse a eu, on a créé sans doute un problème avec l'immigration, exactement comme dans les années 1880 en France, à l'égard des Italiens. Ceci dans les années 60-70 a provoqué ces initiatives xénophobes dites de Schwarzenbach qui ont été repoussées, mais à une très faible minorité, enfin une très faible majorité. Et puis ensuite, ces grands mouvements xénophobes se sont reportés sur des groupes de requérants d'asile, de demandeurs d'asile, en partie réfugiés, qui étaient beaucoup moins nombreux, Sri Lankais, Congolais, dans un second temps dans les années 90, Yougoslaves, ensuite Tunisiens, Algériens, surtout Tunisiens dans les années 2000, enfin un peu après 2000, et puis récemment les Syriens. Et vous avez vu que les Suisses ont voté, par exemple, ont accepté une initiative contre la construction des minarets, et cette année encore, une initiative dite contre l'immigration massive. Et là, c'est tous les groupes de migrants qui sont inclus, quelle que soit leur provenance, quelle que soit la nation à laquelle ils appartiennent. Or, du point de vue économique, la Suisse connaît une situation tout à fait favorable. Hein. Le chômage est en dessous de 4%, et les gens qui sont salariés, qui ont un travail, vivent dans des conditions matérielles, en tout cas des conditions matérielles tout à fait décentes. Donc il y a certainement une instabilité. Il y a une instabilité, il y a un sentiment d'insécurité, un sentiment d'insécurité que les partis de droite et les autorités entretiennent. Mais là, il y a véritablement un problème d'ordre anthropologique dont j'ai de la difficulté à saisir les termes et les raisons, parce qu'on voit ce rejet des migrants, quelle que soit leur origine, quel que soit leur nombre aussi, être réanimé et s'exprimer sous différentes formes, mais de manière absolument, enfin plus que périodique, de manière tout à fait régulière. Bon, je ne sais pas si vous-même vous avez une réponse, mais c'est une question vraiment qui se pose. Vicky Scumbi.
Bonsoir. Je voudrais juste, pour commencer, donner et ouvrir une piste, pas une réponse, mais ouvrir une piste à la question très pertinente qui était posée Claude. Comment ça se fait que dans un pays qui est vraiment, en tout cas, préservé par rapport au reste de l'Europe, il y a une telle montée de la xénophobie? Peut-être que tout simplement, la question aussi se pose à un niveau d'exercice de souveraineté de l'État. C'est-à-dire qu'au fond, l'ultime domaine où peut s'exercer avec force et avec, comment dire, avec visibilité pour les citoyens, la souveraineté d'un État nation, qui a été conçu comme un État-nation, et les traitements sécuritaires et répressifs des étrangers, étant donné qu'au niveau économique, quand même, vu la mondialisation, la marge d'intervention de l'État est beaucoup plus restreinte. Et on en est venu, quand même, à parler du fait que les politiques sont réduites à un rôle de gestionnaire. Donc, peut-être qu'il y a une piste là à suivre, me semble. Donc, et je voudrais quand même revenir sur la dimension européenne qui est les piliers, quand même, qui est le terrain sur lequel est construite cette politique répressive et sécuritaire, ce traitement sécuritaire justement de l'immigration. Car si on prend l'exemple de la Grèce et l'exemple de l'Italie, la Grèce et l'Italie intéressent les migrants, surtout et avant tout, comme porte d'entrée à l'Europe. Je veux dire, personne ne peut imaginer que la Grèce, dans l'état où elle se trouve actuellement, avec 30% de chômage, avec un Grec sur trois sans couverture sociale, pourrait être un pôle qui aurait exercé un attrait, qui est un pays d'accueil que les migrants auraient favorisé. Donc, en effet, il y a des choses terrifiantes qui se passent en Grèce, qui violent et l'État et la Constitution grecque et toutes les conventions internationales et toutes, si vous voulez, tous les droits européens. Mais je pense que c'est un rôle qui lui a été attribué dans l'échiquier géopolitique européen de faire les mauvais flics. De faire les mauvais flics de l'Europe, ce qui n'exempte pas, bien entendu, les politiques grecques de leurs responsabilités. Mais bon, ça, quand même, il faut savoir qu'il y a un camp comme le camp d'Amygdalesa, qui est un camp de détention où les conditions de détention font qu'ils sont apparentés à un camp de concentration. Il faut savoir, c'est tout près d'Athènes, 2000 personnes y sont entassées et pour une durée indéterminée. Il y a plus que 150 personnes qui sont enfermées dans ce camp-là, qui ont dépassé le délai de 18 mois. Plus que 150 personnes qui ont dépassé le délai de 18 mois. Et là, ce camp-là, il est financé par l'Union européenne. Je suis désolée, on a beau jouer les vierges effarouchées et condamner la Grèce d'un côté, et de l'autre côté, financer justement les camps. Et je voudrais juste apporter cette information-là. Il y a eu une grève de la faim qui a duré 4 jours, parce qu'il y a aussi des résistances internes et externes qui sont avec des solidarités externes qui sont très souvent mise en place. Il y a eu une grève de la faim qui a duré 5 jours et qui s'est arrêtée il y a 4 jours dans ce camp-là suite à la mort d'un détenu qui a été mort faute de soins. Il réclamait un jeune Pakistanais de 26 ans. Il est mort parce qu'il n'a pas été soigné. Même les soins les plus élémentaires lui ont été refusés et il est mort au moment où il a été transféré à l'hôpital à la dernière minute. Bon, mais c'est pour ça qu'il me semble, et en même temps concernant les Syriens, il y a 300 Syriens qui campent actuellement dans la place Syntagma, la place de la Constitution, devant le Parlement, femmes et enfants, et il y en a qui ont entrepris une grève de la faim et ils réclament l'asile, mais dans un pays autre que la Grèce. Donc, et du fait qu'il y a eu tout un réseau de solidarité autour d'eux, il n'y a pas d'intervention de la police. Sinon, à la première nuit, la police était prête à les déloger à la manière forte. Mais bon, ça n'a pas été fait. Bon, j'en viens à une question justement ce qui nous permettra, j'espère, de clarifier encore un peu plus le cadre européen de la chose. Et quelle est la différence entre Dublin 2 et Dublin 3, s'il vous plaît? Est-ce que Dublin 3 a été vraiment ratifié? Parce qu'il me semble qu'il y a eu un temps de passage entre les deux qui était... Il y a quelques mois encore, Dublin 3, je crois qu'il n'était pas encore ratifié. Mais en tout cas, quelle est la différence entre les deux? Merci.
Sarah, peut-être
attention sur Dublin.
Oui. Non, je ne suis pas forcément.
Non, sur la question de la Grèce, tout à fait. Quand je disais au début que c'est les jeux de la destruction de l'asile, les faire peser sur des pays qui n'ont un niveau d'accueil, c'est tout à fait l'exemple. Après, il y a des États qui donc font cette rôle vraiment des répulsions des étrangers en faisant tout à fait les jeux de l'Europe. Voilà. Et puis, il y a des États comme l'Italie qui n'en jouent, mais aussi pour ses intérêts économiques. C'est très diffusé dans la presse italienne comment les systèmes d'accueil, finalement, c'est un gros business en façon d'accueillir parce qu'on prend l'argent, même si les migrants sont partis. Et puis, c'est des coopératives qui se créent, souvent très amêlées avec les réseaux mafieux. Donc voilà, c'est aussi une façon pour se faire de l'argent. Sous la question de Dublin, la différence entre Dublin 2 et Dublin 3, c'est très ridicule. Et c'est très grave parce qu'effectivement, au moment de la discussion au passage de Dublin 3, il y a eu tout un lobby ou un advocacy ou un plaidoyer qui était mené par les associations en demandant la suppression, parce qu'en tout cas sur Dublin, il n'y a pas forcément des moyens intermédiaires. Je pense qu'au niveau politique, une association qui défend les droits des migrants doit demander la suppression totale de Dublin, parce qu'il n'y a pas des voies intermédiaires. Que je sache, il y a eu introduit comme espèce de petit cadeau des mesures, des protections majeures. Notamment pour ce qui est les relations familiales. Mais là aussi, c'est très difficile à pouvoir souvent appliquer cette reconnaissance de la famille. Et puis, pour avoir pratiqué des regroupements familiaux, donc des contrastes, donc la décision de Dublin, cela prend des années. Et du coup, ça rend vraiment des situations très compliquées. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a des protections majeures du fait que s'il y a des membres de la famille dans un pays, alors tout d'abord, il faut le savoir démontrer. Tout d'abord, il faut que cette familiale, ils ont des statuts de réfugiés. Et puis, troisièmement, il faut savoir attendre les longueurs des agences Dublin dans les différents pays, qui n'est pas forcément toujours très facile. Donc voilà, mais il y a eu des formes, que je sache, un peu plus des protections, notamment pour les frères, non ?
Oui, il y a l'obligation aussi d'un entretien, d'une information dans une langue que la personne comprend sur la procédure, d'un entretien en début de procédure. Une incitation à mieux prendre en compte les conditions réelles dans le pays européen où la personne va être envoyée. Mais après, c'est toujours... Enfin, c'est un peu le problème du paquet asile en général, c'est qu'il y a des principes et puis après, il y a tout un tas de dérogations et puis une marge d'appréciation qui est énorme. Parce qu'il y a aussi des choses, des portes qui sont ouvertes sur le placement en rétention des demandeurs d'asile, y compris mineurs. Alors toujours quand la situation, etc., en dernier recours, blablabla, blablabla, mais bon, quelque part, on autorise, quoi. Et c'est en vigueur depuis le 1er janvier de cette année. Oui. Ouais. Mais effectivement, les grandes lignes, la règle du jeu, c'est la même, quoi. Avec des aménagements, et puis souvent des aménagements avec des dérogations, des sous-tiroirs et des choses comme ça.
Oui, et puis des longueurs d'application de cette dérogation qui devient quand même difficile d'application.
On doit terminer parce que le bâtiment, non seulement la salle, mais le bâtiment ferme à 21h. J'aurais juste voulu, pour conclure... vous soumettre une question face aux 22 000 morts en Méditerranée depuis le début des années 2000. Je me suis demandé si finalement on ne se trouvait pas face à un crime contre l'humanité. J'ai donc été revoir les textes et il y a un article 7 du statut de Rome qui mentionne comme crime contre l'humanité naturellement l'extermination, la réduction en esclavage, la persécution... La prostitution forcée, mais on mentionne aussi, et je vous lis le texte, les autres actes inhumains causant de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. Et je pense que nous ne sommes pas loin de cette situation.
Je pense que c'est important à rappeler parce que justement en parlant des résistances et en parlant de cette question, il y a un tribunal des peuples qui est en train de se mettre en place sur la question des morts en Méditerranée. Donc voilà, c'est une forme de résistance intéressante qui va essayer de recenser toute cette tragédie. Il y a aussi un recours qui était déposé face à différents tribunaux nationaux pour les cas nommés « live to die », donc un manque de secours pour des naufrages.
Voilà, donc juste pour terminer sur un note d'espoir sous cette tragique... Non, c'est le tribunal de peuple, c'est un projet. Donc, le tribunal des peuples, c'est un système politique de mise à un jugement d'une procédure internationale. Mais voilà, c'est en construction qui part donc des militants italiennes et qui s'élit d'ailleurs au mouvement des Separecidos argentins, parce que c'est aussi pas que sous les morts, mais aussi sous les disparus en mer.